Montpellier, ma ville.
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 Montpellier, ma ville, votre magazine hebdomadaire qui vous fait part de l'actualité de notre ville et de ses environs. Une actualité sociale, culturelle, économique et parfois politique. Pour ce lundi, nous avons retenu deux sujets. L'ALE, l'Agence locale de l'énergie Montpellier, intervient sur le territoire de la métropole. Toute une équipe travaille à faire évoluer les habitudes et les mentalités en matière d'habitat, de déplacement, de mode de vie et de consommation. L'Agence locale de l'énergie est un outil de proximité, d'aide à la décision, un lieu d'échange et de conseil en matière d'énergie et d'eau. Pour en savoir plus, nous recevons en seconde partie de ce rendez-vous Nicolas Catin, chargé de mission, grand public pour l'Agence locale de l'énergie. Tout de suite, je me tourne vers notre première invitée, Isabelle Collot. Bonjour.
Bonjour.
Isabelle Collot, vous êtes la fondatrice de l'association Tout Alzheimer, une association basée à la Grande Motte qui s'est fixée pour objectif de développer diverses actions permettant aux personnes âgées atteintes d'Alzheimer et à leurs aidants familiaux et aux aidants du milieu médico-social d'avoir accès au soutien quotidien et à un accompagnement sur la prise en charge des personnes touchées par la maladie. Nous détaillons dans un instant donc les diverses interventions de votre association. Mais pour l'heure, parlez-nous de cet événement que vous préparez, qui a lieu très prochainement, c'est-à-dire demain, à Aigues-Mortes, au cinéma Marcel Pagnol.
C'est ça, j'ai eu un coup de cœur pour ce film qui s'appelle Flore, qui a été donc réalisé par Jean-Albert Lior, et en 2014 il est sorti. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir assister à sa présentation de film sur Montpellier, la première fois où il a été diffusé. Et c'était vraiment voilà, un petit coup de cœur pour moi. J'ai voulu aujourd'hui le faire partager et pouvoir m'exprimer aussi à la fin de ce film avec ce que je ressens et pouvoir répondre un maximum de questions sur le sujet de la maladie d'Alzheimer.
Oui, parce qu'à l'issue de la projection, donc il y a un débat avec le public.
Il y a un débat, tout à fait.
Un court extrait de Flore.
Avec plaisir.
C'est parti.
Tout a commencé par une série de questions.
Quel jour sommes-nous ?
Quel étage nous trouvons-nous ?
Quel est le nom du président de la République ?
Petit à petit, ta peinture a changé. Puis est venue la peur, l'angoisse. Tu as des excès de violence qui font peur à tout le monde. Alors ton traitement change et ton état de santé empire. Avec mon téléphone, je filme pour montrer ton comportement au neurologue. Et pour lui, c'est l'évolution normale de la maladie. Dans quelques mois, tu ne marcheras plus, tu ne parleras plus, et tu t'enfermeras dans ton monde. On va te ramener chez toi. Maman, ça va ?
Flore, un documentaire de Jean-Albert Lièvre. Alors ce documentaire témoigne d'une intimité poignante. On voit Flore diagnostiquer donc Alzheimer en 2005. Son état de santé empire petit à petit. La peur, les angoisses la gagnent. Elle fait parfois preuve de violence. Cela emmène les professionnels de santé à modifier son traitement. Ça l'enfonce d'une certaine manière dans la maladie ?
Tout à fait. C'est un petit peu le problème qu'on rencontre aujourd'hui dans beaucoup d'établissements spécialisés, justement, c'est qu'il faut réduire la violence. On ne peut pas laisser une personne déranger les autres résidents, on ne peut pas laisser une personne qui a de la violence, c'est dangereux pour elle et aussi pour le personnel soignant. Donc malheureusement, on modifie plus ou moins le traitement. Et malheureusement, la personne, son corps change, son état s'aggrave et ça peut être une évolution de la maladie aussi.
Alors ce témoignage, ce documentaire apporte malgré tout un éclairage sur notre société, notre époque, sur la façon, disons que ça apporte, ça éclaire sur la façon d'aborder certains soins. Parce qu'on voit que le fils de Flore, contre tout avis, décide de la retirer des institutions.
Tout à fait, je pense que c'était un bon choix pour lui. Il a voulu justement prendre ce risque, parce que c'était quand même un risque, tout le monde était contre lui, c'était quand même un gros aménagement, un gros changement. On ne peut pas choisir du jour au lendemain de prendre une pathologie comme Alzheimer à domicile à temps plein. Bon, il a pris ce risque-là, il a voulu justement donner une chance à sa maman de continuer à vivre le plus longtemps possible, en espérant une amélioration. Donc on ne dira pas la suite du film et voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que plus la maladie, déjà, est diagnostiquée tôt, et la prise en charge est meilleure. Et surtout, quand la famille aide et est suffisamment présente, c'est aussi un point positif.
C'est un mieux,
c'est
donc,
un mieux.
Pour le patient. D'ailleurs, le réalisateur Jean-Albert Lièvre et les personnages qui ont accompagné Flore, ils ont puisé dans d'autres cultures, offrant un rapport au temps ainsi qu'une relation aux personnes âgées différente de celui auquel nous sommes habitués. Sur quel modèle de culture ils ont puisé ?
Je pense qu'ils ont, ils ont joué le jeu, déjà du côté familial, le côté nature, le côté... plus du tout côté structure médicalisée où on vit en collectivité, où on est rythmé au rythme des journées, des soins, du repas, du coucher. Et voilà, ils ont vraiment voulu lui donner le côté familial. Ils l'ont ressourcé en Corse, ils l'ont fait vivre là-bas, ils l'ont aménagé son cadre de vie, ils l'ont vraiment lui donné la chance d'avoir une deuxième, finalement, une renaissance et de pouvoir accorder des soins adaptés vraiment à ses besoins au moment présent.
Et puis on sent que ça a une répercussion, le fait qu'elle reste comme ça dans le cocon familial.
Tout à fait, d'être présent avec son fils, avec des gens qui sont là 24 heures sur 24, qui l'aident à reprendre goût à la peinture, qui l'aident à lui découvrir les odeurs, le toucher. Voilà, ce sont vraiment des petits plus du quotidien qui l'aident énormément dans sa pathologie.
Mais donc il n'y a pas vraiment un modèle de culture dans lequel ils ont été puisés.
Il n'y a pas de modèle de culture, c'est
la
culture propre.
Pas dans le...
Voilà, c'est, la maladie est propre à chacun de toute façon, c'est par rapport à son vécu familial aussi et le choix de son fils qui a voulu justement l'amener au plus près de la nature, là où elle était née vraiment en Corse.
Et puis bon, là, c'est là où après ça engendre pas des concessions, c'est peu dire, de la part du fils, parce que là c'est un chamboulement.
Bah, il faut mettre le logement... vraiment en condition de sécurité pour la personne. Il faut
être à disposition aussi.
À disposition, il faut une aide-soignante, il faut un kiné, il faut une infirmière. Voilà, c'est un gros dispositif qui est mis en place et ils ont eu la chance de pouvoir le faire et d'avoir des personnels compétents, justement, présents pour aider cette personne.
Alors le but de cette soirée débat au cinéma Marcel Pagnol à Aigues-Mortes est un questionnement vis-à-vis des institutions de notre société, sans chercher à culpabiliser qui que ce soit, bien sûr. Du moins, je suppose.
On n'est pas là pour culpabiliser, on n'est pas là non plus pour dire c'est bien, c'est mal. C'est juste pour donner un autre avis. Et puis c'est là aussi
une
pour exprimer une alternative. Voilà, parce qu'on sait que tout le monde ne peut pas avoir une personne à domicile. On sait aussi que tout le monde ne peut pas aller en institution. Il y a des institutions qui sont très bien, d'autres moins bien. Voilà, c'est tout simplement voilà, pour donner une ouverture d'esprit et pouvoir discuter autour de ce sujet sans tabou et pour répondre au mieux aux questions.
Et d'ailleurs, c'est ce que vous efforcez de mettre en place avec votre association Tout Alzheimer.
Tout à fait. On répond aux questions donc de tout le monde, que ce soit du nord, du sud, de l'est et de l'ouest de la France. Je suis présente un petit peu partout. J'essaye de répondre au mieux aux questions et aux inquiétudes des familles.
Et surtout, ouvrir la voie à une réflexion plus large sur ce que l'on nomme aujourd'hui le cinquième risque. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est le cinquième risque ?
Alors aujourd'hui, c'est tellement vague, on en entend tellement parler qu'on ne sait plus trop voilà, vers quelle direction se situer.
C'est un terme générique, mais c'est un fourre-tout, vous pensez ? Parce que moi, ça concerne vraiment le troisième, le quatrième âge.
Aujourd'hui, oui. On est quand même aujourd'hui à une pathologie qui se développe de plus en plus. Certains premiers signes arrivent quand même à l'âge de 40 ans pour certains. La personne la plus jeune en France l'a été détectée, elle avait 34 ans, donc c'est bon aussi à savoir.
Exact, on l'avait évoqué lorsqu'on vous avait invité pour le Handi+.
Exactement, donc voilà, aujourd'hui on entend beaucoup de choses, donc c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment se situer sur cet handicap-là. C'est une pathologie qui évolue, il y en aura de plus en plus, on est quand même aujourd'hui à 160 cas qui sont recensés tous les ans en France, donc c'est énorme, et ça n'a pas fini d'évoluer malheureusement.
Alors des permanences à la maison des associations de la Grande Motte sont proposées, elles ne sont pas uniquement réservées aux grands motois, n'est-ce pas ?
Pas du tout, tout le monde peut venir, c'est libre, c'est sur réservation, c'est le mercredi matin où on propose des ateliers qui sont ouverts à toutes les personnes, aux familles, je suis là aussi pour répondre aux questions.
Et vous proposez des entretiens par téléphone également ?
Par téléphone, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, internet, etc.
Et à compter de juin, vous organisez des rencontres pour les aidants ou bien comment le devenir ? Lorsque vous organisez ce type de rencontre, est-ce qu'il y a du monde qui répond présent ?
Donc les gens, c'est vrai, aujourd'hui,
vous
ont peur.
Vous sentez ce besoin,
voilà,
justement ?
Les gens en ont besoin, mais les gens ont peur. On le rencontre souvent, dès qu'on fait un événement, les gens, ils voient Alzheimer, déjà, ils ont tendance à venir un petit peu en reculant. On est là aujourd'hui pour dire que la maladie existe, il faut en parler, et c'est justement, on est là pour ça, on est là justement pour accueillir les gens et répondre au mieux à leurs questions, et que s'ils veulent être aidés, il faut aussi pouvoir faire le premier pas. Donc ces événements-là, ça permet d'aller à la rencontre des gens, les gens, ils peuvent venir, je suis présente pour répondre à leurs questions. Et le fait qu'il y ait plusieurs personnes aussi autour d'eux, voilà, je pense qu'ils se sentent sécurisés, ça leur permet justement de...
Ils se disent, on n'est pas les seuls.
On n'est pas les seuls.
Parce que c'est vrai que quand ce type de pathologie se développe comme ça dans une famille et que c'est le premier cas, de suite, c'est un repli sur soi et on a tendance à s'isoler.
Surtout pour les couples, généralement, quand on a vécu 40 ou 50 ans avec une personne, son épouse ou son époux commence à avoir des troubles neurologiques, on s'inquiète et on se dit justement... j'ai besoin d'aide, mais finalement, je peux me débrouiller toute seule parce que j'aide et j'aime la personne, je vais pouvoir essayer de gérer du mieux possible. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en étant époux et épouse, on n'est pas médecin et infirmière et qu'on a aussi besoin d'aide.
Et oui, et puis surtout qu'on est tellement touché sur le plan affectif qu'on a tendance après peut-être à, forcément
on culpabilise,
à perdre pied,
à
commettre des maladresses.
Tout à fait.
Alors, ces rencontres, c'est à partir du mois de juin, c'est ça ? Juin et juillet.
C'est ça.
Sur la Grande Motte.
C'est ça.
Ce sont des stages, ça se passe comment ? Une après-midi, ça se passe sur plusieurs journées ?
Alors, c'est déjà une journée qui aura donc lieu début juin, donc le lundi, où on va pouvoir justement rencontrer des familles, où on va pouvoir... C'est libre, chacun vient comme il veut, celui qui est réservé en amont, justement, pour qu'on puisse voir le nombre de personnes. Et voilà, je vais faire un peu du cas par cas pour voir justement les situations... Comment diriger un petit peu les personnes, savoir les besoins qu'ils ont, parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes besoins non plus, les diriger, pour voir les aides qu'ils peuvent avoir aussi sur la prise en charge, que ce soit pour une aide en structure ou une aide à domicile, et voir après comment on peut justement mettre en place cet accompagnement.
Ça c'est un sujet que vous maîtrisez très bien, parce que vous-même, vous êtes donc professionnel de santé.
Exactement, je travaille au quotidien des personnes atteintes de cette pathologie-là, maintenant depuis 8 ans, donc je suis concernée, je connais bien cette maladie-là, et je connais très bien le sujet aussi.
Isabelle Collot, merci pour ce travail et ce combat que vous menez. Et comme vous dites si bien sur votre site, un combat ne se gagne jamais seul. Et sachez que à FM+, nous suivons ce type d'initiative et que vous êtes là, vous serez toujours la bienvenue.
Et c'est gentil, merci à vous.
Je vous en prie, merci.
À bientôt, au revoir.
Allez, on marque une pause. Juste après, je suis en compagnie de Nicolas Catin, chargé de mission grand public pour l'agence locale de l'énergie. En attendant, je vous laisse en compagnie de Coldplay. Vous êtes sur FM+, et vous faites bien. Bienvenue si vous venez de vous joindre à nous. Juste avant cette pause, nous étions en compagnie de Isabelle Collot, fondatrice de l'association Tout Alzheimer, basée à la Grande Motte. Une association qui organise demain soir au cinéma Marcel Pagnol à Aigues-Mortes une projection débat. Le documentaire réalisé par Jean-Albert Lièvre, qui a pour titre Flore, montre la maladie d'Alzheimer autrement. Sachez qu'à l'issue de la projection, un débat est ouvert avec le public. C'est demain mardi de 18h à 20h au cinéma Marcel Pagnol à Aigues-Mortes. Passons au second sujet du jour, l'agence locale de l'énergie Montpellier. Une association fondée en 2007 par la ville de Montpellier, la métropole de Montpellier, la région Languedoc-Roussillon, avec le soutien de l'ADEME et l'Europe. L'agence locale de l'énergie Montpellier travaille à faire évoluer les habitudes, les mentalités en matière d'habitat, de déplacement, de mode de vie et de consommation. Un vaste chantier, si je puis dire. Et pour nous éclairer à ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Catin, chargé de mission grand public à l'agence locale de l'énergie Montpellier. Nicolas Catin, bonjour et merci de votre présence parmi nous.
Bonjour.
Alors, dans un instant, on va détailler les compétences attribuées à l'association, mais avant toute chose, vaste programme que vous menez à l'agence locale de l'énergie. Ne serait-ce que de faire évoluer les mentalités, ça prend du temps et c'est un travail de fond et beaucoup sur le terrain, n'est-ce pas ?
Exactement, en fait il y a plusieurs niveaux en termes de sensibilisation. Nous, on n'a pas les moyens, je dirais, de faire des campagnes d'affichage ou des publicités, des 4x3 géants dans toute la ville, dans toute la métropole. Et voilà, mais à notre niveau, en fait, je dirais que les gens qui cherchent de l'information sur les sujets des économies d'énergie, des économies d'eau, je dirais qu'une fois qu'ils nous ont trouvé, ils ont réponse à leurs questions, on peut discuter, ils peuvent rencontrer des personnes donc gratuitement, des gens qui sont compétents sur la thématique, et avant d'aller voir éventuellement des professionnels ou d'aller faire des achats ou autre. Donc voilà, vraiment dans cette pensée de perspective-là, c'est d'apporter en fait des réponses concrètes au public qui nous sollicite.
Mais justement, l'enjeu est tellement important, j'ai envie de dire, ça reste une association qui intervient, donc ça on va le voir, auprès des particuliers, des professionnels, des collectivités. Pourquoi ne pas mettre plus de moyens au niveau de la communication ?
Oui, alors effectivement, la communication, après nous, on est un petit peu le facteur limitant, ça va être la capacité en fait, de nos équipes à répondre en fait, aux sollicitations. Dans la partie qui concerne le grand public, on renseigne donc les particuliers qui sont intéressés, qui viennent nous poser des questions diverses et variées sur les sujets des économies d'énergie. On est déjà un petit peu en limite de saturation du service. Quoi. Donc si on communique beaucoup en fait, sur notre action, on ne sera pas en capacité, on va créer de la frustration.
De répondre aux demandes.
Voilà, donc il y a les enjeux, en fait, c'est des discussions notamment avec nos financeurs, les collectivités locales, vous l'avez évoqué, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui nous aide déjà à fournir des réponses. D'ailleurs, ça se traduit aussi par des postes de travail et puis du temps de travail qu'on peut mettre en face.
Alors, vous intervenez auprès des particuliers, des professionnels, mais également auprès des collectivités. Comment ça se passe? Vous intervenez à la demande
Alors, c'est un petit peu varié en fonction du type de public cible, entre guillemets. Pour les particuliers, c'est des gens qui nous sollicitent. En fait, il y a, une action dédiée en fait, à l'Agence locale de l'énergie qui s'appelle l'Espace Info Énergie. Là, c'est un réseau, il y a plus de 300 structures en France. Et nous, on est la structure pour la métropole de Montpellier. Donc, si un particulier, en fait, il y a un dispositif national sur la rénovation énergétique, pour faire très simple. Mais quand
c'était depuis le plan Borloo, c'est ça?
Non, c'est déjà depuis longtemps. Ça fait une dizaine d'années que ce réseau fonctionne et existe. Je vous disais, voilà, il y a à peu près 300 structures réparties en France, et nous localement, donc sur le territoire de la métropole, quand les gens ont des questionnements sur les questions des enjeux énergétiques à titre particulier, donc les citoyens, quand ils appellent le numéro national qui est le 0800 140 240, si je ne dis pas de bêtises, les gens appellent à ce numéro-là et retombent ensuite localement ici chez nous. Voilà, donc en fait ça se passe comme ça, et après localement les gens ont l'information via des médias comme vous, ou la presse écrite ou autre, plus une liste de diffusion qu'on envoie à peu près à 7000 contacts locaux pour informer des actions qu'on peut mener. Donc là les gens, pour les particuliers, nous sollicitent, envoient un mail, téléphone, prennent un rendez-vous et on leur apporte des réponses en fait sur ces sujets-là. Après, pour les autres types de publics, notamment les collectivités, là il y a un contrat, enfin une convention tripartite, je dirais, qui est passée entre la métropole, la commune et l'Agence locale de l'énergie. Et puis pour les copropriétés, qui est aussi un autre public, là en fait c'est en général les conseils syndicaux qui viennent nous solliciter sur les questions de l'énergie.
On va détailler donc un peu plus tous ces trois différents publics. Alors on revient aux particuliers, vous incitez donc à utiliser les énergies renouvelables, c'est-à-dire?
Alors en fait, déjà on incite les particuliers à mieux connaître, gérer les enjeux énergétiques dans leur logement. Parce que c'est vrai que souvent on parle de promotion des énergies renouvelables, mais je dirais que pour nous l'énergie renouvelable, ça vient sur un bâtiment ou sur un logement en tout cas qui est déjà performant en termes de consommation. Pour faire un parallèle, si vous avez une Ferrari avec les pneus dégonflés, vous allez forcément, vous allez très beaucoup consommer.
Elle va avancer moins, elle va consommer beaucoup
donc
plus.
Avant d'aller tout changer, on va déjà gonfler les pneus. Vous voyez ce que je veux dire? Si on transpose ça en fait au logement, on va travailler en fait sur tout ce qui est donc comportemental. Est-ce qu'on a besoin de chauffer à 25 degrés en plein hiver et de se promener en slip? Peut-être pas. Est-ce qu'on a bien régulé en fait son chauffage par exemple? Est-ce qu'on a un thermostat qu'on programme en fonction de ses habitudes?
Est-ce qu'on a le bon équipement aussi?
Est-ce qu'on a le bon équipement effectivement? Est-ce que le logement est bien isolé? Après là on bascule dans l'aspect plutôt de travaux. Ça compte aussi. Et après, une fois qu'on a fait tout ça, le vitrage, l'isolation, tout ce qu'on peut travailler là-dessus. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, que le logement, il consomme peu, derrière, pourquoi pas aller chercher des énergies renouvelables. Et vous voyez un peu la logique, c'est que mettre des énergies renouvelables sur des bâtiments qui consomment beaucoup, c'est un peu du gaspillage finalement d'énergie pour le coup.
Complètement, oui. Mais par exemple, on va prendre sur un bâtiment qui a plusieurs étages, quand vous parlez d'énergie renouvelable, quel type de solution vous proposez? Une fois que tout l'aspect de double vitrage a été fait, que le diagnostic, ça y est, a été fait dans sa globalité.
Alors effectivement, sur les bâtiments collectifs, en fait, il y a les réponses, on va dire, en termes d'énergie renouvelable, il n'y en a pas des millions sur ce type de bâtiment-là. Donc je pense à un immeuble, par exemple. Sur un immeuble, il y aura des réponses pour la production d'eau chaude sanitaire. Ça va être donc a priori l'option possible, ce sera du panneau solaire.
Panneau solaire,
Mais déjà, quels sont les débits de puisage de l'eau chaude sanitaire? Donc est-ce qu'on ne peut pas limiter déjà les débits de puisage au niveau du robinet, au niveau des douches? Et ensuite, on va aller mettre une production renouvelable. Et puis après, au niveau du chauffage, il y a des possibilités en fait, de chauffage avec des systèmes de chauffage au bois, même collectif, même pour des immeubles. C'est pas très très courant encore.
Alors, ça pollue pas le bois?
Alors le bois pollue pas, il y a un petit débat autour de ça. En fait, en fonction de la capacité, je dirais, des chaufferies, déjà les chaufferies neuves par rapport à des chaudières très anciennes, il y a le débat sur les cheminées en ville, par exemple, effectivement, les cheminées à foyer ouvert, on n'a pas des bons rendements, on a plutôt des particules et des polluants. Donc on va dire c'est plutôt à éviter.
À Paris, ils s'en sont occupés de ça.
Oui, effectivement, mais ils encouragent, en fait, il y a des tests là qui sont faits dans certaines régions pour inciter les particuliers avec des primes vraiment spécifiques pour aller en fait moderniser leurs appareillages de chauffage au bois. C'est le cas dans la vallée de l'Arve, par exemple, qui mène au Mont-Blanc, qui est une vallée qui est plutôt polluée. Mmh. Et donc il y a des actions qui ont été menées par rapport à ça. C'est en train de se transposer tranquillement au niveau national. Mais oui, voilà, pour revenir au sujet de l'immeuble, des immeubles et des énergies renouvelables, il y a déjà un gros travail, je dirais, de suivi de consommation de l'existant et ensuite de travail d'amélioration énergétique. Plus la moitié du parc, en fait, mériterait d'être isolé thermiquement parlant. Et les prises de décision, elles sont collectives, notamment en copropriété. Et donc là, on est sur des schémas de fonctionnement et de prise de décision qui sont un petit peu complexes.
Et qui sont plus longues.
Qui sont plus longs et qui ne sont pas toujours, on va dire, couronnées de succès.
Alors, vous dites que, là, on reste toujours dans le domaine des particuliers, que la moitié de la solution se trouve dans nos actes quotidiens.
Oui, effectivement, on a tendance à dire la pollution. La pollution, là, c'est les gros industriels, c'est les autres. Mais finalement, la solution, quand on dit qu'elle se retrouve dans nos actes quotidiens, c'est qu'en fait, concrètement, à chaque fois qu'on va consommer de l'énergie, qu'on va consommer de l'eau, on peut se poser la question, est-ce qu'on la consomme efficacement? Est-ce que le produit que j'utilise, est-ce que je pourrais pas avoir le même service rendu? Pour l'éclairage, tout à l'heure en aparté, on parlait des ampoules basse consommation, mais est-ce que pour le même service rendu, à savoir m'éclairer, est-ce que je peux pas avoir finalement 2, 3 fois, 10 fois moins de puissance électrique à disposition? Et là, oui, maintenant c'est possible, il y a les techniques qui permettent ça. Donc je dirais qu'on peut se poser la question à chaque fois. Et effectivement, les industries produisent aussi pour les particuliers. Vous voyez, donc la boucle elle est là. Donc en fait, c'est aussi beaucoup de la demande en fait des particuliers. Donc le particulier, s'il change son fusil d'épaule, il peut influer sur ce dispositif là. Alors, il faut rester modeste aussi, hein. Faut le faire avant tout, je dirais, faut pas le faire pour sauver la planète, parce que ça, on va tous s'épuiser, et puis ça, individuellement, voilà. Mais c'est le côté collectif vraiment par rapport à ça. Donc on le fait déjà pour soi. On le fait collectivement derrière, et pour soi, on gagne à la fois du confort, je pense à l'isolation thermique des logements, et puis aussi, on gagne sur ses charges d'énergie et d'eau, et donc là, on est gagnant aussi financièrement.
Alors, je sais que vous proposez une mallette aux particuliers. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette?
Alors, cette mallette, effectivement...
Et quel est le but également
Le but de la mallette, là, c'est vraiment plutôt un but pédagogique, un petit peu ludique aussi. Donc, les gens qui... c'est quoi cette mallette? Dedans, il y a deux aspects. Il y a un aspect de test, de mesure, et un aspect ensuite d'essayer, en fait, des produits économes chez soi. Pour tout ce qui est de la mesure, en fait, on a un débitmètre qui va mesurer des débits d'eau, et un wattmètre qui va mesurer, en fait, des consommations électriques. Donc, avec ces appareils-là, vous allez pouvoir mesurer les débits de vos robinets, les débits de la douchette.
Et prendre conscience un peu
pour vous situer un petit peu, est-ce que vous êtes dans la moyenne, est-ce que votre douche elle consomme beaucoup ou pas, donc déjà ça. Ensuite, pour l'aspect électrique, vous allez voir, on parle beaucoup d'éveil, vous savez, la nuit, l'éveil qui reste allumé, cette consommation cachée,
La télé, on laisse l'ordinateur.
Exactement, ce genre de choses, et ben là au moins vous avez un appareil que vous suspectez en manière de consommer, mais c'est vrai que ce truc-là il est allumé toute la journée, vous pouvez brancher l'appareil dessus, ça vous dit la puissance consommée, et donc du coup vous pouvez en déduire le coût à l'année que ça représente. Et il y a des tests qui ont été faits là, en moyenne avec l'augmentation du parc informatique chez soi, et puis tout ce qui est autour de ça, on est sur des puissances de veille qui correspondent à des coûts de fonctionnement annuel de l'ordre de 50-80 euros par logement. Donc il y a un potentiel financier d'économie par rapport à ça. Donc on fait ces tests-là, et puis une fois qu'on a testé ça, et bien dans la mallette, justement, l'intérêt, c'est qu'on a mis des produits pour essayer. On a mis une douchette économe, en fait, qui consomme deux fois moins d'eau qu'une douchette classique. Pendant une semaine, vous vous douchez avec, la famille y passe, tout le monde regarde un petit peu, est-ce que c'est bien, pas bien. Voilà, pareil
pour les ampoules. Est-ce que le débit est suffisant pour pouvoir bien se laver
Que c'est des choses importantes, mais donc les gens, c'est pour, on va dire, inciter les gens à franchir le cap. C'est pas des produits qui sont très très onéreux, ça coûte 10, 20, 30 euros, on est sur des choses qui sont assez modiques. Mais par contre, c'est bien d'avoir testé un petit peu avant de franchir le cap, peut-être d'aller acheter des produits économes dans les points de vente.
Et pour obtenir cette mallette, si quelqu'un veut essayer, il suffit qu'il contacte donc l'agence locale de l'énergie.
Exactement, on contacte l'agence locale de l'énergie, on demande en fait un chèque de caution, parce qu'il y a quand même pas mal de choses dans la mallette. Donc le chèque de caution, c'est 150 euros. Pour l'instant, elle est partie quasiment une centaine de fois dans la nature. Donc on a 6 mallettes, on a un jeu de 6, et on n'a jamais gardé les chèques. Donc je vous rassure par rapport à ça. Le chèque de caution, on le rend à la fin, c'est pour être sûr, ça fait une petite garantie pour nous.
Et pas d'échec à la fin.
Pas d'échec à la fin, voilà, on espère. Et donc les gens les gardent pendant 10-15 jours, font tous leurs tests et reviennent, et après on débriefe un petit peu entre guillemets avec eux pour voir un peu ce qu'il aura plu, ce qu'il n'aura pas plu.
Vous permet de mesurer justement l'impact qu'a eu cette mallette.
Exactement, voilà. Et notamment, effectivement, les gens découvrent beaucoup de choses sur les économies d'eau. Apparemment, c'est assez méconnu.
Parlez-nous de la maison économe. Alors, c'est un module qui est composé de 4 pièces d'une maison. Et elle est où cette maison économe? Elle est destinée à qui? Auprès des écoliers? Auprès des...
Alors la maison économe, effectivement, c'est un outil de sensibilisation. C'est une expo, donc grandeur nature. Comme vous l'avez dit, il y a 4 modules, salle de bain, cuisine, salon et garage. Et en fait, dans chacune des pièces, on va aborder différentes thématiques. Et il y a un petit peu d'interaction, donc on peut appuyer sur des boutons, on allume des ampoules, on voit des choses qui se passent et tout ça. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de façon ludique, qu'on soit locataire ou propriétaire d'un logement, qu'on soit un enfant à partir de, je dirais, 8-10 ans, jusqu'à, bien sûr, aux adultes, tout âge confondu, on va dire de 7 à 77 ans ou au-delà. On vient dans cette maison-là et en fait, on découvre un petit peu l'impact à la fois des gestes et des petits achats de petits matériels économes en énergie. Voilà. L'exposition est la destination donc, du grand public, essentiellement, voire des scolaires dans certains cas très spécifiques. Et en fait, elle est itinérante et en fait, elle est déplacée aux besoins. Donc là, pour le moment, elle n'a pas été demandée. Donc elle est en stand-by, elle n'est pas disponible sur le territoire. Mais si une collectivité ou un établissement d'éducation, collège, lycée ou autre, le souhaite l'emprunter, c'est avec plaisir, association ou autre, il n'y a pas de problème par rapport à ça.
Donc vous le mettez à disposition.
Tout à fait.
Parlons des professionnels, justement, les professionnels que vous... chez qui vous intervenez, ce sont des professionnels du bâtiment, des agriculteurs ou pas seulement?
Alors par rapport aux professionnels, en fait, il y a, je dirais, deux cibles à peu près. C'est les gens qui travaillent en fait dans tout ce qui est donc l'artisanat, les entreprises, qui vont intervenir ensuite auprès des particuliers. Donc eux, en fait, l'intérêt, c'est qu'ils viennent parfois nous solliciter pour se renseigner sur les aides financières disponibles à la rénovation énergétique, comment ça se passe. Il y a des crédits d'impôt qui existent, des co-prêts à taux zéro, pour la rénovation. Donc pour les gens qui voudraient faire des travaux, donc là, ils peuvent venir, en discuter avec nous parce que des fois, ils ont des clients qui leur posent des questions. Et c'est vrai que c'est des dispositifs qui évoluent un petit peu régulièrement. Donc c'est bien de se tenir au courant, d'être à la page. Il y a un autre volet aussi des professionnels qui sont les syndics de copropriété, avec qui on a des relations, je dirais, régulières, parce qu'on est sollicité, nous, par des copropriétaires. Et donc, on fait le lien ensuite avec le travail du syndic.
Vous leur proposez des formations?
Alors, effectivement, on propose en fait des formations pour les copropriétés. Quand on dit formation, c'est plutôt, on est en train de transformer ça en atelier, parce que ça, les formations, c'est un peu pompeux. C'est plutôt des ateliers un petit peu techniques autour de différents sujets de l'énergie. On prend une thématique copropriété, l'isolation en copropriété ou quoi que ce soit, et on la décrypte avec des professionnels, justement, donc avec des intervenants professionnels, parce que l'idée, c'est d'avoir une connexion avec le monde réel. Et puis, pour des gens, donc, des copropriétaires, mais aussi des syndics qui viennent bénéficier effectivement de ces ateliers spécifiques sur les copropriétés. Et puis un dernier volet aussi, c'est le public des bureaux d'études spécialisés donc dans la maîtrise de l'énergie, qui peuvent en fait donc venir intervenir soit dans les ateliers qu'on organise ou des formations, mais également ensuite on est sur le terrain aussi, on se retrouve à être en interface avec eux par rapport donc à leur clientèle, que ce soit les syndics ou parfois les collectivités.
Mais justement, en parlant des collectivités, vous les accompagnez à différents niveaux, lesquels?
Alors en fait, pour les collectivités, il y a une mission spéciale chez nous qui s'appelle le CEP, c'est le Conseil en énergie partagée. Et en fait, dans le cadre des conventions qu'on évoquait tout à l'heure entre la métropole, la commune et l'agence locale de l'énergie, quand on signe ces conventions-là avec les collectivités, on parle bien du territoire de la métropole, et vraiment des communes du territoire de la métropole. Il y a à peu près les deux tiers des communes avec qui on a des conventions actuellement. Donc en fait, ça permet à la collectivité de bénéficier en fait du service de l'agence locale de l'énergie, qui est une sorte de alors pour faire très simple, c'est des personnes énergie, on va dire, en temps partagé un petit peu sur les communes. Et ça permet quoi, ça? Ça permet aux communes qui n'ont pas en interne ou les compétences et ou le temps de faire du suivi de consommation énergétique, du suivi de leur consommation d'eau, c'est en fait d'apporter de la méthodologie pour faire du suivi de consommation, d'arriver à leur dire, voilà, votre parc de bâtiments publics, il consomme tant, voilà les ratios localement, au niveau de l'eau, il consomme tant, voilà les ratios localement, attention, là, a priori, il y a des dérives, il y a une suspicion de fuite, vous voyez. En gros, c'est faire le lien entre les factures qui arrivent d'un côté au service comptabilité, et en euros, et puis tout ce qui est consommation électrique, électrique ou
eau. Il y a le parc éclairage
des kilowattheures,
public,
des mètres cubes, voilà.
Il y a le parc éclairage public, même la flotte véhicule.
Alors effectivement, la flotte véhicule, c'est un sujet qui est très spécifique, qu'on aborde un peu timidement pour le moment, parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré et on se concentre encore toujours sur l'aspect bâtiment, parce qu'il y a le gros du travail et à faire là-dessus. Et puis après, voilà, si l'équipe évolue, on pourra effectivement aller un peu plus loin, notamment sur les enjeux des flottes de véhicules des collectivités. Ouais.
Autre objectif mis en place auprès des collectivités, c'est le suivi des consommations, donc ça vous le dites. Quel dispositif est proposé pour mesurer justement ce suivi?
Alors en fait, c'est relativement simple, hein, mais c'est je dirais que ce que théoriquement devrait faire un bon gestionnaire, à savoir, c'est faire un suivi de ses consommations énergétiques annuelles et voir un petit peu si on observe des dérives ou autres. Donc c'est le même système, en fait, on collecte les factures en fait reçues par la collectivité, et je vous le disais, on fait le lien entre les euros et les kilowattheures. Voilà, parce que
vous faites tout ce calcul, quoi.
Voilà, il y a tout ce calcul qui est fait, il y a des tableaux qui sont faits, des tableaux de bord de suivi, et ensuite il y a des restitutions qui sont faites à la fois aux techniciens et aussi aux élus. Voilà, un petit peu votre parc, comment vous situez par rapport aux autres communes de la métropole, telle école par rapport au parc d'école qu'on suit, ce genre de choses. Donc ça permet d'initier des discussions, de faire prendre conscience des choses, et ensuite les collectivités nous sollicitent pour dire en amont de leur projet, pour se questionner un petit peu sur les grandes orientations, et nous après on fait le lien, le cas échéant, avec les financeurs type ADEME ou région, et puis avec éventuellement les professionnels type bureau d'études ou entreprise.
On passe à la jeunesse, tout un dispositif pédagogique est mis en place pour alerter les jeunes sur les bons gestes à adopter. Vous intervenez auprès des écoles, collèges
Alors effectivement, alors pour l'aspect pédagogique, en fait, on n'est pas en capacité, nous, je dirais, puis on n'a pas forcément la vocation d'intervenir directement auprès du public scolaire. Par contre, nous, on est un petit peu en interface avec les professionnels de l'éducation qui souhaiteraient éventuellement se former sur les sujets des économies d'énergie ou autres. On a nos outils type la maison économe qui est mise à disposition le cas échéant. On a aussi un outil, un livret pédagogique sur la maîtrise des consommations d'énergie.
Les Écomino
Alors Écomino, ça c'est un projet qu'on abordera juste après. En fait, non, ça c'est un livret pédagogique en fait, qui permet aux primaire, pour faire très simple, aux 8-12 ans, de se familiariser en fait avec les enjeux de l'énergie, et ça correspond au programme en fait au programme de ces cycles-là au niveau éducatif. Et donc voilà, les enseignants qui seraient intéressés peuvent gratuitement récupérer les guides chez nous sur le territoire de la métropole, et ensuite donc utiliser ces guides avec les enfants. Voilà. Et après, on fait le lien aussi avec des associations spécialisées d'éducation à l'environnement, si besoin. Je pense à l'APUE par exemple, qui est très présente localement. Voilà, ou le lien avec l'écolothèque ou ce genre de structure.
L'eau, l'une des préoccupations majeures de l'Agence locale de l'énergie, une ressource fragile et limitée.
Oui, juste avant Écomino, j'ai évoqué Écomino, donc ça c'est un projet spécifique qu'on fait pour les écoles. Donc ça c'est
le
paragraphe jeunesse, et puis ça fait le lien avec la collectivité aussi. En fait, Écomino, en deux mots, c'est un projet qui permet de lier les collectivités, les personnels enseignants et les enfants, ceux qui fréquentent l'école en fait, les utilisateurs en fait des locaux. Et en fait, c'est un petit défi qu'on les gens se tirent un peu la bourre entre écoles, pour faire très simple, avec donc un suivi de consommation, deux éco-gestes qu'on peut appliquer en fait sur les économies d'eau et d'énergie, et puis on regarde un peu des bilans et on fait un petit podium de savoir quelle école elle est plus loin dans l'économie d'énergie. Voilà. Et l'économie d'énergie, après l'économie financière, elle est partagée entre l'école et la collectivité.
Donc c'est gagnant. Voilà. Alors on revient à l'eau. C'est donc l'une des préoccupations majeures, une ressource fragile et limitée, c'est un enjeu planétaire, n'est-ce pas ?
Alors, l'enjeu planétaire, effectivement, ça donne le vertige quand on prend un peu de recul. Voilà, il y a les enjeux du réchauffement climatique qui font qu'on a des déplacements, effectivement, de climat, pour faire très simple, qui font que nos régions, a priori, on risque de se retrouver avec des climats qu'on connaît le centre de l'Espagne, le sud de l'Espagne. Donc, effectivement, c'est déjà des enjeux de d'anticipation par rapport à ça. D'adaptation, je pense au choix des plantes, un exemple très très simple. Mais aller mettre maintenant un arbre ou une plante dont on sait qu'elle va consommer beaucoup d'eau, on sait que pour les années à venir, on a déjà des mètres cubes prévisibles de consommation.
Exact, donc,
déjà, quand on fait des choses là maintenant, on part déjà sur des plantes adaptées au climat local, des plantes méditerranéennes qu'on va arroser qu'on va arroser les premières années, et ensuite elles vont se débrouiller toutes seules, comme dans la garrigue, vous la regardez en toute saison, elle est toujours belle, verte, fleurie parfois, voilà, elle se débrouille très bien toute seule.
En France, ou disons ici même dans notre région, on mesure réellement cet enjeu de l'eau, dit-on, qui va manquer, la population dans sa globalité a conscience de cela ?
Alors c'est un peu difficile parce que c'est vrai qu'en ville on est parfois un petit peu déconnecté, je dirais, des rythmes naturels.
On n'a pas la notion de
stockage, de pénurie, il y a toujours de l'eau au robinet, voilà, ça se passe plutôt bien. Donc là-dessus, voilà. Bon, il y a l'enjeu politique aussi, il y a la régie municipale, la régie de l'eau, pardon, qui s'est créée au niveau de la métropole. Donc on va dire c'est le côté que la collectivité se réapproprie un peu ces sujets-là. Donc c'est intéressant parce que on va pouvoir sans doute aller développer encore plus de choses sur les actions de maîtrise de l'eau. Après, il faut juste savoir qu'il y a un petit ratio qui est facile à retenir, c'est qu'au niveau national, la consommation moyenne par jour et par personne, on est en gros à 150 litres par jour et par personne. Un chouïa moins, mais en gros, retenez ce chiffre-là. Bah, localement, sur la métropole de Montpellier, on a 188 litres par jour et par personne. Donc on est un petit peu au-dessus.
Ouais.
Voilà. Alors, il y a un peu d'arrosage, un peu plus que dans la moyenne, parce que voilà, mais l'arrosage, il est lié à quoi ? Justement, à des choix de plantes, par exemple, qui ne sont pas forcément locaux. Donc, il y a des choses comme ça.
La pelouse qui demande quand même pas mal d'eau aussi.
La pelouse, effectivement, une pelouse, c'est en gros un mètre cube, donc 1000 litres par mètre carré par an. Voilà, ça va très vite, quoi. Donc, les stades, notamment, dans les collectivités, les stades enherbés, c'est clair que c'est des gros consommateurs d'eau. Après, c'est des choix, voilà, qui sont soit de société, hein, carrément, parfois nous dépasse un petit peu. Mais voilà, c'est intéressant d'être prendre conscience de ces enjeux-là, et là encore, quand on a des choix à faire, est-ce qu'on part sur un stabilisé, est-ce qu'on part sur une pelouse synthétique, voilà, ce genre de questions.
Bon, les pelouses synthétiques commencent un petit peu à se développer.
Oui, effectivement, voilà. Mais bon, là, il y a la population aussi qui est consciente des enjeux d'économie d'eau, mais qui veut aussi un stade bien arrosé, tout vert. Donc, voilà, oui. Il faut aussi que chacun prenne conscience un peu des choses, quoi.
Alors, essayons d'avoir une vision beaucoup plus large. On va s'éloigner de la région. Depuis 93, l'ONU a lancé un programme à ce sujet, décrétant la célébration d'une journée mondiale de l'eau, à date fixe le 22 mars de chaque année. Ça porte ses fruits en France ?
Alors sincèrement, la Journée mondiale de l'eau, en termes de répercussion au grand public, elle n'est pas, on va dire, moi je ne le perçois pas spécialement localement ce genre d'action-là. Mmh. Après, je vous dis, nous, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir des réponses concrètes, les gens qui nous sollicitent. On a fait des tests, en fait, enfin pas des tests, mais on avait lancé l'an dernier un défi qui s'appelle le défi des familles à énergie positive, qui fonctionne encore avec une autre structure, le GFOSAT, là, qui reprend les rênes. En fait, on accompagne des familles sur leur consommation d'eau et d'énergie pendant tout un hiver. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que les familles accompagnées sur les économies d'eau, elles avaient en moyenne 25% d'économies d'eau au bout de 6 mois, ramenées sur une année. Donc en fait, voilà, il y a un potentiel chez les gens de 15-25% grosso modo d'économies d'eau et d'énergie sur les petits gestes, les petits matériels hydroéconomes. Donc là-dessus, clairement, il y a déjà cet enjeu-là. Avant d'aller investir des centaines, voire des milliers d'euros dans la rénovation énergétique et tout on a déjà en fait des choses qu'on peut appliquer facilement, localement, et on est gagnant parce que c'est des choses qui ont des temps de retour sur investissement, si on regarde l'aspect économique, qui sont très très rapides, de l'ordre de quelques mois.
Depuis 2007, date de la création de l'Agence locale de l'énergie Montpellier, vous travaillez essentiellement quand même sur l'eau. Hein. Quel bilan vous pouvez dresser depuis la création justement de...
Alors, en fait, c'est plutôt l'inverse. On travaille essentiellement sur la maîtrise de l'énergie. Et là, depuis récemment, justement, grâce à l'Agence de l'eau et la métropole, notamment avec des fonds de l'ADEME aussi, je le précise, on a pu aller plus creuser en fait le sujet des économies d'eau. Et en fait, c'est un petit peu lié parce que les économies d'énergie...
Ça fait combien de temps que vous penchez vraiment sur l'eau?
Ça fait une petite année, là, vraiment, qu'on a lancé le démarrage avec le défi Ecomino qui prend ces choses-là, les aspects ateliers eau, économie d'eau et tout ça. Donc voilà, on prend un peu ce terrain-là, même si depuis toujours, je dirais, l'Agence locale de l'énergie, depuis son démarrage en 2007, on est aussi sur la maîtrise des fluides, grosso modo. Donc quand on économise de l'eau, c'est aussi de l'eau chaude, donc c'est aussi de l'énergie. Donc on est vraiment sur ces enjeux-là. On a enseigné près de 8000 personnes depuis le démarrage de l'agence. C'est à peu près un peu près 1000 personnes par an. Donc voilà, on a autour d'une cinquantaine de copropriétés qu'on accompagne chaque année. Plus des deux tiers des communes avec qui on a des conventions signées.
On peut dire que depuis un an, vous avez quand même pas mal avancé, parce que voilà, vous dites que il y a à peu près 8000 personnes chez qui vous êtes intervenu. C'est pas mal quand même en un an.
Alors ça, c'est depuis le démarrage de l'agence, ça représente à peu près 1000 personnes qui nous sollicitent chaque année.
Ah, voilà, c'est voilà, les 8000, d'accord,
voilà,
oui, très
voilà,
bien.
C'était ça en cumul.
Oui, j'avais pas compris, oui. Eh ben Nicolas Catin, merci. Merci, nous ne manquerons pas de suivre vos conseils. Pour en savoir davantage, rendez-vous donc sur le ale-montpellier.org, le site donc internet de l'agence locale de l'énergie Montpellier, un site qui regorge d'informations et de conseils. Je sais que vous appliquez quand même les conseils que vous donnez au public. Vous êtes venu comment ici à FM+?
Effectivement, donc les locaux de l'agence sont place Paul Bec à Antigone. Et effectivement, FM+, là, donc près de la,
on a près du zoo.
Voilà, tout près du zoo. Ben, je suis né en vélo, effectivement. Moi, je me déplace en vélo dans la ville, dans la métropole. Et voilà.
Ah ben voilà, donc exemple à suivre. Un dernier mot sur les cafés climat. Vous organisez des cafés climat, ils sont gratuits, ouverts à tous. Ils s'organisent où?
Alors les cafés climat sont généralement dans les locaux de l'agence locale de l'énergie. Quand il y a des thématiques dont on sait qu'elles vont drainer plus de monde, on trouve d'autres locaux, mais là on est plutôt dans les locaux de l'agence locale de l'énergie. Le prochain aura lieu au mois de septembre et la thématique est encore à définir. Donc voilà.
Donc c'est en préparation.
C'est en préparation par rapport à ça, mais effectivement on retrouve toutes les informations à ale-montpellier.org, vous avez raison. Il y a aussi le compte Facebook de l'ALE, vous retrouvez les infos en temps réel.
Mais c'est vrai que le site regorge d'informations, c'est une mine d'informations.
Ben merci, effectivement. On essaie de mettre à jour et de tenir à jour de pas mal d'infos pour notamment les particuliers.
Ben merci.
Merci beaucoup.
C'était votre rendez-vous du lundi matin, Montpellier, ma ville. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Bye bye.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, ma ville.